إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فمن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على صفوة الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وسن سنته وارتضى بهديه إلى يوم الدين. فأتمنى اللهم معهم بعفوك وغفرانك يا أرحم الراحمين. Donc le but de ce cours, Inch'Allah, ce sera de voir les écoles juridiques dans l'islam. Donc aujourd'hui, nous n'aurons pas la possibilité de voir toutes les écoles. En fait, on peut résumer que les écoles juridiques se divisent en trois gros groupes, je dirais. L'école qu'on appelle l'école sunnite, al-sunna al-jama'a, c'est-à-dire les gens de la sunna et du regroupement. Après, nous aurons un deuxième groupe qui s'appellera le schisme, le shia, et un troisième groupe qui sont un peu dispersés dans plusieurs d'autres groupes qui, pour la plupart, ont entièrement disparu, qui ne sont pas forcément des écoles juridiques. Donc, pour aujourd'hui, on va parler du sunnisme. Qui représente à peu près dans l'islam 90% des musulmans.
C'est quoi le troisième groupe ?
C'est des groupes différents. Ah. C'est, par exemple, on trouve le Mu'tazila ou le Qadiriya, c'est des groupes qui ont des idées un peu particulières, qui ont disparu quasiment pour la plupart.
Kharijite ?
Pardon ?
Kharijite ?
C'est un peu des sectes,
non ?
C'est quoi ?
Non, c'était à leur époque, c'était des grands groupes qui étaient avec une opinion, un truc, mais qui ont disparu. On va voir pourquoi ils ont disparu. Donc pour l'instant, si vous voulez, soyons clairs, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque groupe, de ce qu'il est. Moi, ce que je veux vous donner l'importance, c'est que pourquoi, si on regarde d'ailleurs, j'aurais dû vous l'apporter, mais vous pouvez le trouver sur le site. Je vais vous le mettre sur le site. J'ai mis un calendrier sous Excel avec la date donc des fondateurs, de leur école, de leur vie. Essayez de regarder, c'est incroyable quand vous avez un graphique devant vous, comme les choses sont claires. On va retrouver que toutes les écoles juridiques, ils ont été dans un temps très petit, dans un espace-temps, mais vraiment énormément petit. C'est pas sur plusieurs siècles ou sur un truc. Ils ont démarré à peu près à 100, 150 ans après la mort du prophète, après l'Hijra, à peu près, et ils ont duré sur un siècle. Et nous avons tous les groupes juridiques qui ont été créés pendant truc. Et le madhhab, les écoles juridiques, en fait, quand vous posez la question aux gens, on va vous dire il n'y a que 4 écoles. Hein. Mais en fait, il y en a eu quelques dizaines, voire quelques 200, voire 300 écoles juridiques différentes. Mais pourquoi les uns ont se sont maintenus, les autres ont disparu? Probablement pour la première période des écoles juridiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Ahd al-Tabi'in, c'est-à-dire les premiers qui sont venus après les compagnons du prophète, c'est que les gens n'écrivaient pas. Tout simplement, et que la survivance d'une école juridique dépend des livres qu'elle laisse. Parce qu'une fois que le fondateur a disparu, si on n'a pas d'écrit, on a du mal à se rappeler de tout ce qu'il disait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que souvent, l'école juridique ne propose pas, par exemple, des avis sur tout. Et donc, devant certains problèmes, on a un problème pour répondre à la question, donc on va chercher ces ailleurs. Et à force, ce qui va être le cas de certaines écoles que je vais vous citer maintenant, d'ailleurs, ils n'ont pas des avis sur tout, ou du moins, nous n'avons pas la trace de tous les avis qu'ils ont, donc on a du mal à se rappeler de ce qu'ils disaient. Donc, pour ça. Et puis surtout, c'est après, les écoles juridiques ont survécu grâce aux élèves. C'est les élèves, c'est pas seulement le fondateur qui était un type exceptionnel, c'est que les élèves qui l'ont suivi étaient des gens extraordinaires aussi, qui ont propagé, qui sont allés enseigner ailleurs et tout. Donc ça les importe. Ça, c'est les trucs. Donc l'école juridique, chez les sunnites, il y a à peu près 4 grandes écoles. C'est l'école hanafite d'Abu Hanifa, l'école malikite de Malik, l'école shafi'ite de Shafi'i, l'école hanbalite d'Ibn Hanbal. Et alors, Les quatre écoles. Alors, je ne commence pas. C'est pas un ordre chronologique, c'est un ordre que j'ai pris moi, comme ça. Alors, l'imam Abu Hanif. Alors, le but de ces cours-là, donc, c'est de vous dire la raison de la spécificité de l'école, d'après moi. Wallahu a'lam. Parce que c'est une recherche sur une trentaine d'années d'études. C'est que généralement, quand je parlerai des opposants à ces écoles-là, je vais citer les raisons, mais pour moi, c'est en fait, souvent, c'est l'opposition qu'on va chercher la vérité, ou la raison qui fait la différence des autres. Donc, l'imam Abu Hanifa a vécu à Bagdad. Donc, c'est pas quelqu'un, d'abord, il n'est pas d'origine arabe, donc c'est quelqu'un qui est rentré dans l'islam par l'ouverture du nord de l'Arabie. Et il est né à Koufa vers les années 700 et il est mort vers les années 767, 68, enfin les dates sont pas trucs. Donc il a vécu à peu près 70 ans à Bagdad, qui était devenu le centre de l'intellect et des groupuscules qui ont apparu dans l'islam. Tous les petits groupes qu'on verra dans le dernier cours, qui ont apparu à droite et à gauche, sont devenus de là. Et donc, Abu Hanifa n'a pas vécu ni à Médine ni à la Mecque. Il les connaît que par ses voyages et par... Mais lui, il a été confronté à un problème, c'est celui qui est confronté dans un pays, par exemple la France, c'est d'être dans un milieu où la majorité n'est pas musulmane. Parce que contrairement à ce que pensaient les gens, Bagdad n'était pas en majorité musulmane. Parce que tout le monde ne s'est pas converti quand on a ouvert l'Irak, la Jordanie, la Syrie, enfin c'est le grand pays perse de l'époque. Tout le monde ne s'est pas converti à l'islam. C'est venu petit à petit. Donc ils vivaient au milieu d'une communauté qui était une grande mosaïque. Où il y avait aussi bien des musulmans que des non-musulmans. Et la majorité des non-musulmans était beaucoup plus grande que le truc. Et on était confrontés, surtout les savants, ils étaient confrontés à un problème, c'est qu'ils étaient confrontés avec les autres religions en termes de dialogue. C'est-à-dire qu'on leur posait des cols, ben, il fallait trouver le moyen. Ce qui n'était pas le cas de l'Arabie. L'Arabie était devenue islamisée à 100%. Il n'y a pas de conflit interreligieux. L'Arabie était devenue à 100% musulmane. Et le Bagdad, ce grand période-là, était mixte, plusieurs religions, des nassériens, des juifs, des catholiques, des religions des adorateurs de feu, d'autres groupes, trucs. Et donc il y avait un dialogue, on venait dire, les musulmans, vous êtes sur la vérité, il y avait un dialogue, il fallait argumenter. Et Abu Hanif est devenu ce qu'on appelle l'école du Ra'i, de la vie. Alors, le mot raï en arabe a souvent un terme péjoratif, parce que dans l'islam, on ne doit pas émettre son propre avis, on doit se conformer à ce que disait Allah et son prophète. On n'a pas à émettre son avis sur un problème. On peut donner son avis, mais on ne doit pas laisser l'avis d'Allah et du prophète et prendre le sien. Donc, quand on disait l'école du raï, ça veut dire que c'était très péjoratif. C'est-à-dire que les gens ils faisaient plus appel à leur intelligence pour déduire les commandements que de se référer à Kitab ou Sunna. Et d'ailleurs, c'était la principale chose qu'on reprochait à Abu Hanif, c'est de se référer beaucoup. Mais on verra que c'est tout à fait faux. Donc il a vécu dans une époque d'abord très tourmentée, parce qu'il y avait des conflits entre des petits groupes qui avait inventé des histoires. Celle qui va regrouper à peu près toute cette période-là, c'est surtout la fitna, ce qu'on appelle la grande fitna, c'est la fitna de l'invention du Coran. C'est-à-dire un groupe qui a dit que le Coran était créé. Alors, un jour peut-être qu'on en reviendra là-dessus, qu'est-ce que c'est que cette histoire du Coran qui a été créé? C'est quand on est parti d'un élément, un jour quelqu'un s'était posé la question, est-ce que le Coran tel que nous le voyons là est inventé ou ininventé, c'est-à-dire est-ce qu'il a été créé comme étant un élément ou est-ce qu'il n'a pas été créé par Allah, est-ce que c'est une créature d'Allah ou pas. ce qui aurait dû rester un niveau de dialogue entre des savants est descendu dans la rue. Et des gens, ils ont pris des positions. Et alors, ce qui est devenu la grosse fitna, c'est que Maïmoun, qui était un calife, a pris cette thèse. Lui, il croyait que le Coran est une créature d'Allah, que Dieu l'avait créée. A pris cette thèse-là et il l'a imposée de force. Et donc, on a commencé à torturer des savants. Tous ceux qui disaient que. En fait, l'opinion la plus répandue, c'est que le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est ça, là. C'est la parole d'Allah descendue sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers l'archange Gabriel. Donc, est-ce qu'il est créé ou incréé, on ne cherche pas. C'est une question qui ne nous intéresse pas. Il n'y a pas pas à discuter là-dessus. Il y a des éléments qui pourraient supposer que qu'il a été créé et d'autres trucs. Parce que l'élément, le verset coranique sur lequel on est parti, c'est « Onazzal al-Qur'an ». Si le Coran est descendu, c'est bien qu'il a été créé. Parce que comment descendre quelque chose qui n'est pas créé? Mais, je dirais, on va dire que c'est des jeux de mots, des espèces de sens qui pourraient être interprétés de plusieurs sens. Le problème, c'est que c'est devenu un gros problème parce que l'autorité politique a pris à sa charge une doctrine qui n'avait pas beaucoup de preuves, il a voulu l'imposer de force. Et donc c'est ça qui va réagir. Et donc il y a beaucoup de problèmes comme ça. Il y a aussi Qadriya qui disait, ou Jabri qui disait, est-ce que l'homme a un choix ou c'est Dieu qui lui impose? Parce que si Dieu impose, c'est-à-dire qu'il y a la destination, la prédestination, si on est destiné à mourir en mécréant, c'est que Dieu l'a décidé, donc c'est injuste qu'il me punisse. Puisque c'est lui qui a décidé que je suis mécréant. Donc c'est... J'ai pas le choix, donc Dieu m'impose. Donc, le jugement de Dieu, la punition de Dieu, c'est injuste pour moi. Donc il y a plusieurs avis comme ça. Et donc ces petites écoles-là, en fait, ont des avis très réduits sur un seul élément. Et je dirais que, pour revenir à tout à l'heure, c'est un peu comme une secte. Parce que c'est quoi une secte? C'est de prendre un ou deux éléments et de tout construire autour, de tout interpréter par rapport à ça. C'est ça une secte. Vous prenez un élément dans des groupes ou dans des thèmes très précis, où vous construisez toute votre théorie autour de ça. Et en fait, ça ne tient pas compte du reste. Oui.
Et ceux qui parlaient de la prédestination, ils étaient toujours considérés comme musulmans, malgré...
Ah oui. On n'a jamais excommunié. Oui. L'islam n'excommunie pas. On parlera dans le prochain de cours sur l'iman ou le kufr, mais on n'excommunie pas dans le truc. Si quelqu'un se comporte comme un musulman avec nous, on doit le considérer comme musulman. S'il dit des mots de kufr, on doit le considérer comme quelqu'un s'il se déclare comme étant mécréant.
Le fait de dire que Dieu est injuste,
Le fait de dire Dieu est injuste, on lui dit, tu dis un mot de mécréance. Mais est-ce que tu dis un mot de mécréance? Il faut qu'il le reconnaisse comme étant de la mécréance. Il faut que le type reconnaisse que ce qu'il dit est de la mécréance. S'il ne le reconnaît pas, on ne peut pas le juger. Il dit non, moi je dis une vérité. S'il dit je dis une vérité, il faut lui prouver que ce n'est pas une vérité. Donc Abu Hanif a été confronté à ce problème-là. Et donc il a été obligé de développer des théories de réponse à des choses où les savants qui sont en Arabie Saoudite, Arabie Saoudite, Hijaz, en Arabie, ne pouvaient pas être confrontés parce qu'ils n'avaient pas ce problème-là. Et donc, si nous voulons résumer, donc le fait de supposer répondre à des questions-là a développé tout son avis juridique autour de ça. Donc si on veut prendre comment lui se refaire dans sa manière d'élever sa jurisprudence, comment il a fait son école, bien sûr, il y a les deux éléments de base. C'est l'Kitab ou Sunna, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les trucs qu'on trouvera chez tous les autres groupes. C'est la première référence, c'est l'Kitab ou Sunna, c'est-à-dire le Coran et le truc. Maintenant, sur le même verset, on aura des différences d'explications. Sur un hadith, on aura qu'ils l'accepteront, qu'ils l'accepteront pas. Mais il est admis par toutes les écoles que les premières preuves qu'on doit avancer dans un argument, c'est le livre et la sunna du prophète. Si on n'a pas un verset coranique ou un hadith, l'argumentation ne tient pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avis là-dessus. On est d'accord.
Donc, même si c'est l'école de la vie et que les gens disent qu'il s'éloigne, c'est faux en fait, puisque sa base, c'est le Coran et la Sunna.
Alors, le Coran et la Sunna, tout le monde le reconnaît comme autant. Le Coran comme première preuve, la Sunna comme deuxième preuve. Ça, il y a une unanimité sur toutes les écoles juridiques. La première des choses, c'est le Coran. La deuxième chose, c'est la Sunna. Tout le monde, même des groupes qu'on considère comme étant non musulmans. Par exemple, je pense à Mohammadi, c'est la dernière secte qui a été créée vers le début du 19e siècle en Inde, où quelqu'un s'est prétendu être de nouveau un prophète musulman. Leur base de leur juridiction, si vous étudiez Mohammadi maintenant, leur base de leur juridiction, c'est le Kitab al-Sunna. Ils lisent le Coran et ils se réfèrent à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'eux, ils l'ont dit, mais nous, on a un prophète, un nouveau prophète. Donc, ils traduisent le terme de Khatm al-Anbiya, le dernier des prophètes, qui est dans le verset, parce qu'il y a un verset coranique qui dit que Muhammad Khatm al-Anbiya, donc ils disent Khatm al-Anbiya, c'est le Khatm, ça veut dire le bijou, l'ornement, celle qui décore la religion. Donc ça ne veut pas dire le dernier, ça veut dire c'est le bijou qui décore la foi. Donc ce n'est pas la fin, ce n'est pas le dernier. Et donc il y aura d'autres prophètes après. Et puis d'autres qui ont adopté le même style en disant pourquoi voulez-vous que Dieu n'envoie plus de prophètes. Enfin, il y a des arguments, bref. Mais si vous voulez, il reste quand même le Coran et la Sunna comme étant leur référence. D'accord? Donc tous les groupes, c'est là le Coran et la Sunna. Et après, Abu Hanifa, il tient compte de l'avis des compagnons, sahaba. C'est-à-dire si les compagnons ont donné un avis et tout. Et après, il se réfère à son avis à lui et à l'avis de ses contemporains sur des éléments bien précis. Et après, il fait ce qu'il appelle stahsen, c'est-à-dire c'est de choisir entre deux éléments possibles quel est le préférable. Donc ça c'est le truc. Et après le qiyas, l'analogie, c'est-à-dire de mesurer une chose connue avec un élément non connu. Et il en a, je dirais, à mon avis, il est le principal personne qui a imposé le qiyas dans l'islam. Parce que le qiyas, c'est très important. L'analogie, c'est très important. Parce que c'est ce qui permet de comprendre, par exemple, c'est par analogie qu'on a interdit le tabac. Analogie par rapport à l'alcool et à la drogue. Donc si on a obtenu une fatwa qui interdit le tabac, c'est parce qu'on a comparé le tabac, la dépendance du tabac, à la dépendance de l'alcool et à la nuisance de l'alcool, qu'on a dit que c'est interdit. Je suis en train de te dire que c'est par analogie. C'est par analogie, parce qu'on l'a comparé. On peut comparer des choses comme ça. C'est l'analogie. Mais après, ça devient une fatwa. Une fatwa, c'est un avis juridique. Tous les avis juridiques ne sont pas imposables. C'est une chose que les musulmans ignorent. Une fatwa, c'est l'avis de quelqu'un à qui on a posé une question. Elle n'a aucun sens d'obligation, sauf dans un seul cas où tous les musulmans sont d'accord. Pour ça, c'est le djihad, c'est la déclaration de la guerre sainte par le gouvernement. Mais ça, c'est commun. C'est comme si la France demain déclarait la guerre. Si quelqu'un ne doit pas participer à la guerre, il est déserteur. Ce n'est pas spécifique à l'islam. C'est que quand l'État est en guerre et que quelqu'un refuse de défendre l'État, ben il est déserteur, c'est aussi simple que ça. On n'a pas le droit de refuser d'aller se battre pour son pays, de le défendre. Mais tous les autres fatwas, c'est un avis juridique. Donc, ils n'ont aucun sens d'obligation.
Pour l'analogie de Piaz, on prend. C'est à partir de l'information
oui.
Et des compagnons.
Oui, on parle de tout ce qu'on a comme choses qui sont connues, qui sont admises par tout le monde.
C'est pas seulement d'un avis.
Non. On peut être aussi un ijmer. Un ijmer, c'est un consensus. C'est-à-dire que des savants sont tous d'accord que, par exemple, les consensus, en fait, si vous prenez, les consensus sont très, très limités. Beaucoup de gens croient que les consensus, c'est énorme. Non, les consensus, c'est vraiment. Les consensus qui sont admis, c'est que la shahad est obligatoire pour devenir un musulman, que la salat est obligatoire, et après, ça s'arrête là. et que le Coran est une preuve, et que la Sunna est une preuve. Les consensus sont très, très, très limités. Sur la zakat, on n'a aucun consensus, par exemple. On a un consensus que la zakat est obligatoire. Mais elle est obligatoire, mais comme elle dépend de celui qui a de l'argent, donc il n'y a pas de consensus. Donc les consensus, c'est quelque chose qui est mal utilisé dans la plupart du temps. Il faut se méfier. On verra pourquoi dans les autres groupes, ça... Par exemple, Abu Hanif admet le consensus. Mais Zahiriya et les chiites le refusent. Pourquoi ils refusent le consensus? Parce que tout simplement, le consensus c'est quoi? C'est que tous les savants musulmans soient d'accord sur un avis. Zahiri, ils disent leur question. Est-ce qu'on les a réunis? Est-ce qu'on est allé leur demander s'ils sont d'accord ou pas? Ils disent, c'est pas possible. On ne peut pas avoir des gens qui sont tous d'accord sur le même avis. C'est impossible. Donc le consensus pour eux n'existe pas.
Mais là, le consensus que vous avez parlé, par rapport à la prière, c'est dans le Coran, ça veut dire que c'est les bases de...
Voilà. C'est pour ça que je te dis, le consensus, les jemaah, est très très limité. Si on, vraiment on cherche à savoir sur lesquels toutes les écoles sont d'accord, on va arriver à des points très petits, où ils sont d'accord à 100%. Mais bon, après, on est d'accord sur des choses à 50, 60, 70, avec des petites variantes, des trucs comme ça. Mais le consensus à 100%, limité à shahada, au salat, c'est très peu. Donc Abu Hanifa, c'est ce qui a marqué son école, c'est cette recherche de la vie. C'est de te comparer, de chercher un effort par rapport à ses connaissances. Ça, c'est la base du Hanafiya. Et c'est pour ça que maintenant, par exemple, on fait énormément appel au mazhab d'Abu Hanifa, parce qu'il répond à des questions contemporaines. Parce qu'il a pensé à des choses, et parce que sa manière, donc l'école qu'il a élevée, c'est-à-dire la manière de réfléchir, de trouver une réponse, elle s'applique à ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que lui, il a parlé, par exemple, de la transplantation des corps. Il a parlé de... Par exemple, si par exemple aujourd'hui, certaines écoles juridiques autorisent le prêt pour la construction d'une maison individuelle en Europe, je dis bien en Europe, c'est bien grâce à Abu Hanifa et au jugement d'Abu Hanif. Donc l'argumentaire qu'on va utiliser pour dire que le prêt, alors que le prêt à intérêt est interdit, si on l'autorise en Europe, c'est bien avec l'argumentaire d'Abu Hanif.
C'est interdit. Moi, je pensais que c'est si on avait du profit pour nous, c'est nous les intérêts, ça ne fait rien gagner, au contraire, on en perd.
Oui, mais c'est ça ce qui est interdit.
C'est le fait d'en perdre. Hein.
C'est le fait de tu empruntes 100 euros, tu es obligé de rendre 120 euros. C'est ça qui...
Ça ne nous arrache pas, donc...
Bah oui, mais c'est ça qui t'interdit. Ah, mais c'est pour te protéger.
Ah, ok, ouais.
Si vous lisez le Coran, le terme qui a été utilisé concernant le prêt dans le Coran, c'est un terme qui est détesté par Allah et par son prophète. C'est le mot « harb ».« Wa'adhinu biharbin min Allahi wa rasoulih ». Quand le verset coranique est descendu sur l'interdiction du prêt, il a dit, si vous abandonnez pas l'usure, attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son prophète. Et comme disent les savants, si le prophète a été, on lui a ordonné de faire la guerre, c'est-à-dire que c'est une guerre obligatoire pour nous aussi. Ça veut dire que c'est à la charge de chaque musulman de lutter contre l'usure. Et je dis toujours que l'usure a toujours été interdite dans toutes les religions. Et Isa alayhi salam, Jésus, quand il est rentré dans le temple et qu'il a jeté les tables des marchands, c'était pas des marchands, ils vendaient pas des dattes et des bananes, ils faisaient de l'usure d'argent, c'est-à-dire que les rabbins, ils ont dit, on ne peut donner de dons au temple qu'avec une certaine monnaie. Et donc, si tu veux faire un don au temple, il faut que tu fasses un échange de monnaie. Tu me donnes ton argent et je te donne l'argent qui est autorisé à offrir au temple. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ben, évidemment, il faisait de la spéculation. C'est-à-dire, un jour, la pièce que je vais te vendre va coûter 10 euros, le lendemain, je te dis, oh non, aujourd'hui c'est 15. Et en fait, elle n'a pas de valeur, parce que la valeur avant, c'était par le poids. 5 grammes d'argent valait 5 grammes d'argent, quelle que soit la monnaie. C'était la valeur. Maintenant, notre monnaie n'a pas la valeur que par rapport au dépôt qu'on en a à la banque. C'est-à-dire que l'argent qui circule en France est garanti par un dépôt d'or à la Banque nationale. On ne peut pas produire plus d'argent. On ne peut pas mettre en circulation plus d'argent sans augmenter ce dépôt. C'est ce qu'on appelle la garantie. Comment ? Et donc, la spéculation, ce qui a fait écrouler l'économie mondiale aujourd'hui, c'est que c'est de la spéculation. C'est-à-dire, on vend des choses qui n'existent pas dans un but de s'enrichir. C'est-à-dire que, c'est quoi les sunk price ? Les sunk price, c'est tout simplement, on a prêté de l'argent à des gens en sachant qu'ils n'allaient pas rembourser. Et alors, vous me direz, mais pourquoi ils leur ont prêté de l'argent ? Mais c'est pour récupérer leur maison.
C'est pour s'enrichir.
De s'enrichir. Donc on a fait écrouler l'économie à cause de ça. Et donc quand Allah Azzawajal dit « Je déclare la guerre à ceux qui font l'usure », on imagine bien, vous voyez, l'économie, le capitalisme s'écroule à cause de l'usure. Et ça ne changera pas. L'usure est un mal en soi. Le verset le plus long qui est descendu dans le Coran, c'est le verset de l'usure. C'est le verset du prêt. C'est la fin de la sourate Al-Baqarah, le deuxième chapitre du truc. C'est le verset le plus long du Coran. C'est une chose, il faudra un jour un cours entier pour expliquer les méfaces de l'usure. Mais l'usure c'est quoi? C'est du parasitage simple de l'économie. Des gens qui ne produisent rien et qui ramassent de l'argent. C'est ça l'usure. Tout simplement c'est ça l'usure. L'islam préconise d'agir, de produire pour gagner de l'argent. L'islam ne t'interdit pas de planter des salades et de les vendre à 25 euros la salade. Il ne t'interdit pas. Tu peux vendre ton produit au prix que tu veux. Mais ce qu'il t'interdit, c'est d'acheter un produit à bas prix, de le stocker et de créer une pénurie, de le vendre après à des gros profits. Non, il faut laisser le marché circuler normalement. Et de bloquer de l'argent. C'est de bloquer, par exemple, d'empêcher l'argent de circuler pour créer des pénuries.
Par exemple, si on achète un truc, voiture, n'importe quoi, 200 euros. Et si on la vend 1000 euros, on n'a pas le droit, alors.
Si.
Ah, j'ai le droit.
Bien sûr. Mais ça dépend de l'acte de la vente. Ça, c'est l'offre et la demande.
Ah.
C'est autorisé dans le... Ce qui est interdit, le riba, c'est quoi? C'est argent contre argent, blé contre blé, date contre date. C'est deux éléments qui sont la même chose. D'accord? C'est pour ça qu'on s'est posé la question, au début de ce siècle et du siècle avant, là, l'échange de monnaie, est-ce qu'il est autorisé par l'islam ou pas? Parce que c'est de l'argent contre de l'argent. Et que c'est des valeurs et non pas une chose réelle. Parce que quand vous échangez un billet de 100 euros contre un billet maintenant de 150 dollars, c'est des valeurs que vous changez, c'est du papier. Il n'a pas la valeur en lui-même. Donc on s'est demandé, les savants se sont posé la question, est-ce que c'est légal? Parce que c'est de l'argent contre de l'argent. Et que ça varie. Aujourd'hui, vous allez échanger 100 euros contre 150 dollars. Demain, peut-être c'est 160 ou 110 ou 115, ça change. Et c'est la spéculation qui crée ça. Et donc, est-ce que c'était légal ou pas? Il y a eu un grand débat qui a duré une vingtaine d'années. Des gens disent, jusqu'à aujourd'hui, il y a des savants qui disent que c'est de l'usure. Et en fait, spéculer là-dessus, c'est de l'usure. Par exemple, il y a des banques qui ne gagnent de l'argent qu'avec ça. Ils achètent, ils sont en euros, de la même opération, ils vont acheter après des dollars, avec les dollars ils vont acheter du yen, et après ils vont acheter une autre monnaie, et après ils vont revenir en achetant de l'euro, et quand ils ont fait le circuit, ils ont commencé avec 100 euros, ils vont finir 10 minutes après avec 110 euros. Parce qu'on joue sur la différence des valeurs. Et on finit par gagner. Et qu'est-ce qu'ils ont produit? Rien. Ils n'ont rien produit. C'est ça.
Son histoire de voiture, j'achète une voiture à 200 euros, il la revend 1000 euros. Ben, c'est
pas si la personne accepte. Ah non, non.
Tu profites sur la personne parce que nous, on a acheté 200 euros.
Et alors?
Dans ce cas-là, tu ne gagnes pas ta vie. Si je
veux avoir et la banque, ils font quoi de différence alors quand ils...
La différence, c'est qu'ils ne travaillent qu'avec l'argent, eux.
Ils ne travaillent pas avec le marchand. Enfin,
voilà, ils ne travaillent. C'est pas une offre, une demande. C'est difficile de comprendre le prêt argent. Le prêt d'argent, c'est pas le sens du cours.
Moi, la voiture, souvent, il est d'accord, mais
voilà.
Je suis pas d'accord qu'il me bouffe, moi.
Voilà. Par exemple, imagine le sens contraire. Quelqu'un qui a une voiture, Elle vaut à l'Argus 5000 euros. Il veut te la vendre à 100 euros.
C'est mon problème.
C'est un accord, c'est un marchandage. Moi, j'ai ce gobelet-là. Tu dis, est-ce que tu peux me vendre le gobelet? Je te dis, oui, il vaut 10 euros. Tu acceptes pas.
D'accord. Alors que la banque,
j'ai pas le choix. Parce que c'est elle qui t'impose. C'est imposé, c'est le fait d'imposer. On viendra un jour à discuter. Bon, on passe au deuxième, parce que sinon, on n'aura jamais terminé. C'est l'imam Nel.
Je
voulais
juste demander par rapport à
Abou
Hanifa. Dans l'analogie, est-ce qu'il fait appel au contexte, par exemple?
Absolument, l'analogie fait toujours appel au contexte. L'analogie fait toujours appel au contexte. C'est indéniable, c'est indissociable de la... Parce que pour comprendre l'analogie, il faut qu'on ait un élément de référence. Un jour, je vous donnerai un cours sur les éléments, les différentes, pour comprendre ce que c'est que l'analogie, le qiyas, les jumères et tout ça. Mais l'analogie fait toujours appel à quelque chose qui est connu, qui est simple, mais elle a des règles. Hein. Et le contexte est une des règles de l'analogie, c'est-à-dire que le contexte soit clair. Je ne vais pas prendre l'analogie pour répondre à une question dont je ne comprends pas le sens. Si, par exemple, si quelqu'un me propose de lui dire, est-ce qu'une action d'une banque, enfin quelque chose qu'il est en train de faire, un projet qu'il est en train de faire, est légal ou pas légal, je ne peux pas répondre si je ne le comprends pas. Il faut que je comprenne très bien en quoi consiste l'opération pour donner un avis. Je ne peux pas donner un avis sur quelque chose dont je n'ai pas le contexte, je ne le maîtrise pas. D'accord ? Le deuxième imam, pour rester dans le même sens, c'est l'imam de Hijaz, donc peut-être c'est Melk, le malikisme, le fondateur du malikisme. Alors lui, il est né à Médine, il est mort à Médine. Il n'a jamais quitté Médine que pour aller faire le pèlerinage. Donc lui, si vous voulez, le principe de l'école de Melk, il est clair. Il est né dans la ville du prophète. Il a vécu avec les compagnons du prophète. Ce qu'il a vu depuis sa naissance jusqu'au jour de sa mort, c'est ce qu'ils ont hérité du prophète, des compagnons du prophète et de leurs successeurs. Donc toute sa science tient du fait du savoir qui appartient à cette ville-là. Et lui, quand il donnait un avis, il n'a pas besoin, il dit, j'ai pas besoin d'avoir une référence, le Coran ou la Sunna, ou un hadith, pour dire que cette chose est comme ça, parce que les gens de Midi, ils la font. Et comme ils l'ont hérité de ses parents, c'est que c'est comme ça qu'ils l'ont hérité du prophète. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, c'est que quand un des élèves de Bouhanif était devenu juge après, quand il l'a rencontré, il lui a dit, donne-moi la preuve. Dans l'Aden, vous savez que dans l'Aden, on répète deux fois l'Aden. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shadon la ilaha, Allah, Shadon la ilaha. Il a dit, donne-moi la preuve que c'est comme ça. Donne-moi hadith qui prouve que tu as raison. Parce que Abu Hanifa disait, il suffit de dire une seule fois, ça suffit. On n'a pas besoin de le dire deux fois. Et Melk lui a répondu, il a dit, l'Aden, que nous faisons aujourd'hui, nous l'avons hérité de nos pères. Qu'ils l'ont hérité de leur père, qu'ils l'ont hérité du prophète. Quelque chose qu'on a hérité directement du prophète, je n'ai pas besoin de preuves pour le dire. C'est comme ça qu'on l'a entendu du prophète, donc je n'ai pas besoin de preuves. Ça, c'est la base de la législation de Melk. C'est-à-dire que pour lui, tout tourne autour de la ville de Médine, parce que c'est elle qui a gardé l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où le prophète a construit son savoir, c'est là où il a construit sa communauté. Donc les descendants détiennent le vrai savoir. Et tout ce qui n'est pas de Médine, il a tendance à le refuser. Donc, ce qui fait que, par exemple, on a des spécificités de l'imam Melk. Donc, bien sûr, on retrouve toujours les mêmes sources, l'islam au Coran. Après, tout de suite, après le truc, c'est les actes et les jugements des compagnons qui importent pour lui. Quand il cherche une preuve, il va voir ce que faisaient les compagnons du prophète, ceux qui ont vécu à la Médine. Pour lui, Ijmer, le consensus, c'est le consensus des gens de Médine. Ce n'est pas le consensus de tous les savants de la Homme. Pour lui, c'est le consensus des gens de Médine, des savants de Médine. Après, il faisait appel au Qiyas, ces trucs comme ça, mais toujours par rapport aux actes de Médine. Et les actes et les faits des gens de Médine sont pour lui une preuve irréfutable. Tout le monde l'a attaqué sur ce point-là. Donc, si on peut comparer par rapport à Abu Hanifa qui était attaqué sur le fait d'utiliser le ra'i, la vie, trop souvent, Malik a toujours été attaqué sur ce point-là en lui disant comment peux-tu considérer que l'acte d'un compagnon est une preuve. Parce que on n'a aucun texte qui nous dit qu'on doit suivre ce que faisaient les compagnons. On a des textes qui nous prouvent qu'on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un texte qui nous dit qu'on doit suivre les quatre premiers califes, Khulafa al-Rashidin, mais rien ne prouve qu'on doit suivre ce que faisait un compagnon.
Et comment il est sûr de ce qu'ils ont fait, c'était juste?
Parce qu'il le faisait tous les jours. Donc c'est arrivé jusqu'à lui. C'est-à-dire la manière dont on le... Par exemple, une des différences entre les malikites, c'est par exemple le takbir rafal aidain, c'est de lever les mains, et après, il y a l'acte du seboul, ou il y a l'acte du qabr. Ou de laisser les bras le long du corps, ou de les tenir de cette manière-là. Et Malik a rapporté la façon de se tenir droit le long du corps. Alors que tous les imams, grâce au hadith qu'on possède, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « On m'a ordonné, moi et le prophète, dans notre prière, de nous tenir le bras. » De faire ça. Donc, on a compris, tout le hadith, il est clair que c'est cette position, le truc. Mais Malik qui dit « Mais moi, quand je suis né et j'ai vu les gens faire la prière, je les ai vus qu'ils faisaient comme ça. » Donc, s'ils le faisaient, c'est qu'ils le tenaient de leur père. Et donc, c'est une preuve suffisante pour moi que c'est autorisé de le faire. Il n'a pas besoin de chercher un hadith. Puisque l'acte pour lui des gens de Médine prouve que c'était fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Oui, mais après cela, c'est aussi...
Oui, mais je te parle de même de l'imam Malik. Donc, je vous dis, c'est pour ça qu'il a... C'est comme ça que l'imam Malik voyait son truc. Donc, pour comprendre, les Malikites, par exemple, si on prend l'école dominante maintenant en Arabie Saoudite, attaque beaucoup le malikisme, alors qu'il est issu de leur... Ils sont un descendant de l'imam Malik. Il attaque beaucoup parce que justement, par rapport à ce genre d'attitude, est-ce qu'on a le droit de...
Moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire la prière comme ça.
Si, il y en a beaucoup. grande trucs. En fait, on est revenu à la bonne solution. Grâce à la télévision et aux satellites. Parce que maintenant, les gens, ils voient... Mais là aussi, c'est l'imitation. En fait, ils voient les gens à la Mecque le faire, donc ils l'imitent. Mais ce n'est pas par conviction religieuse. Mais moi, je me rappelle quand j'étais jeune, dans le nord de l'Afrique, ils sont tous malikites. Et tout le monde fait souboul, c'est-à-dire les bras le long du corps. Et donc, pour revenir, l'acte des gens de Médine est la troisième source de jurisprudence de l'imam Malik, et donc il a été énormément attaqué pour ça. Il se réfère aussi à beaucoup d'autres choses dans sa jurisprudence, le qiyas qui est dans l'analogie, la référence juridique, la préférence juridique, stahsen, c'est-à-dire quand j'ai deux avis qui sont valables. Je dois choisir celui qui est préférable pour la communauté. D'accord? Et aussi, ça permet, Starsen, de lever certains... C'est-à-dire que dans un acte, je vais réfléchir quel est le mieux pour la communauté. Par exemple, pour vous donner un exemple de ça, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, quand il était calife, pendant son califat, il y a eu une grande disette. Il y a eu une grande famine. Et les gens mouraient de faim. Il a suspendu la main coupée du voleur. Alors que c'est une chose qui est statuée, c'est un verset coranique, il n'y a pas à discuter là-dessus. Il l'a suspendu. Alors, il l'a suspendu pourquoi? Parce qu'il a dit, ceux qui vont voler pour manger, c'est pour se protéger, c'est une question de survie. Je ne vais pas couper la main de quelqu'un qui cherche sa survie, parce que la base de la jurisprudence, la base de la loi divine, c'est la protection de l'être humain. La base de la jurisprudence islamique, de la charia, le 1, c'est protéger din, la religion, 2, protéger la vie, après protéger l'argent, les possessions, les biens, et après protéger l'honneur. C'est les 4 choses que protège la charia islamique. Elle protège 1, la religion, 2, la vie. 3, les biens après l'ard, l'honneur. Donc ça, c'est les... La charia tourne autour de ça. Toutes les lois sont... Et donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui va voler pour nourrir, pour manger ou pour nourrir ses enfants. Donc il a suspendu ça. Donc là, on a un avis... Alors, on va dire comment il a pu suspendre une loi divine. Une loi divine parce que l'estahsan, il permet ça. La nécessité de sauvegarder la nation prédomine sur le fait d'appliquer une loi divine. D'accord ? Oui ?
C'est, au début, c'était la religion, ensuite c'était la vie, après c'était quoi les deux autres ?
Les biens et l'honneur.
Les biens et l'honneur. Les biens, c'est tous les biens, l'argent, les possessions et tout. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche à vous voler et que vous voulez défendre votre bien, il est évident de se défendre, ainsi que celui qui... Mais bien sûr, quand on dit qu'il faut protéger la religion, la vie, le truc, la première des protections, on est bien d'accord, c'est de ne pas les exposer. On est d'accord, hein, on ne va pas se dire je les expose et après je me défends. Non, la première des protections, c'est de ne pas les exposer. D'accord ? Il est évident, même votre assurance, si vous laissez les clés de la voiture sur le contact et que vous la volez, l'assurance va dire « Monsieur, mais je ne veux pas vous rembourser, vous avez laissé les clés sur la porte ouverte, les clés sur le contact. » Il ne faut pas exposer ni sa religion, ni sa vie, ni son bien, ni son honneur à une attaque extérieure et après dire « Voilà, mais je ne fais que me défendre. » Non, non, on est bien d'accord, la première des protections, la première des défenses, c'est la protection. Et donc, ce qu'on appelle la préférence juridique, c'est-à-dire entre deux éléments de choisir ce qui est le truc. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. Masalah al-mursala, c'est l'intérêt public, l'intérêt qui prédomine, c'est-à-dire qu'on va prendre plutôt une loi dans un sens plutôt que dans un autre parce que l'intérêt public le prédomine, tu vois. Il y a beaucoup d'autres éléments. Le troisième imam, c'est l'imam Shafi'i. Alors lui, sa particularité qui a fait la distinction de l'imam Shafi'i, radiallahu anhu, est un homme extraordinaire. Tous les savants sont des hommes extraordinaires. L'imam Shafi'i est déjà de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il se rencontre avec le prophète dans la 12e génération, donc il est descendant du prophète. Il est né à Gaza, donc c'est un palestinien. Il a vécu dans sa jeunesse à la Mecque, et après il a vécu à Bagdad, et il a fini sa vie en Égypte. Et sa particularité, c'est qu'il a été nourri avec l'école du Rai, l'école de l'opinion d'Abu Hanifa, l'école malikite, puisqu'elle a été l'élève de Malik, et ce qui a fait la différence entre lui, c'est deux choses. Un, c'est qu'il a vécu une partie dans sa vie, donc dans le pays arabe, et après il est parti en Égypte, il est mort en Égypte. Et alors on parle toujours de deux écoles chaférites, celle de Hijaz, quand il était en Arabie, et celle de Truc, où il a changé beaucoup de ses fatwas, beaucoup de ses avis. Il est le fondateur du fiqh. C'est lui qui a mis en place la jurisprudence, la manière de déduction, le livre de jurisprudence de référence, c'est Shafi'i. Il avait, subhanallah, une capacité à déduire du jugement d'un verset coranique qui approche de l'incroyable. Je vais vous donner un exemple. Il y a un hadith qui n'est pas une référence dans l'islam, ce qu'on appelle hadith Ibn al-Asfour, c'est un petit gamin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait et qui élevait un oiseau dans une cage. Et l'oiseau était mort. Et le prophète passe, il le voit en train de pleurer. Et il lui dit qu'est-ce qui se passe ? Il lui dit mon oiseau est mort. Alors le prophète lui caresse les cheveux et lui dit que Dieu te le remplace. Et il part. Hadith tout à fait banal, il n'y a pas de choses extraordinaires. L'imam Shafi'i a déduit 99 jugements de ce hadith qui sont incontestables et il a dit je m'arrête à 99 par honneur au nom de Dieu, je ne veux pas dépasser le nom de Dieu. Et sur le Kahf par exemple, il en a déduit 6286 jugements du sur le Kahf et il a dit je m'arrête par respect au nombre de versets coraniques. Il avait une capacité de déduction des trucs, quelque chose qui frise l'inimaginable. D'ailleurs, ses élèves n'ont jamais... D'ailleurs, c'est pour ça que l'école Shafi'i est vraiment très difficile. n'ont jamais pu réunir tout son savoir qu'il a enseigné. Il avait une capacité de déduction, subhanallah, qui frise. C'est pour ça qu'il a changé de... C'est-à-dire que son évolution intellectuelle et mentale et l'acquisition des choses qu'il faisait, il avait une maîtrise tellement extraordinaire. Et par exemple, une des choses qui est connue de l'imam Shafi'i, par exemple, c'est que pendant le ramadan, il finissait 50 fois le Coran, pendant le mois de ramadan. 50 fois. Il le finissait par exemple une fois par jour, ce qui faisait les 30 fois, tous les jours il le finissait, mais les 10 derniers jours, il le finissait une fois dans la journée, une fois la nuit. Donc imaginez quelqu'un qui maîtrise tel du Coran, donc qui est capable de le répéter en une journée en entier, parce que si vous prenez par exemple la récitation la plus rapide, vous allez arriver à 16 heures. Essayez, vous verrez, c'est, en répétant très rapidement le Coran, il faut au moins 16 heures pour le dire en entier. Ça veut dire qu'en fait, il ne le récite pas comme nous, avec la voix. C'est qu'il le mémorise, un peu comme un ordinateur qu'il mémorise en passage très rapide. Donc il finit par avoir une maîtrise telle que... il a une connaissance du texte qui frise l'inimaginable. Aussi, une autre chose, c'est que tous les gens, par exemple, quand il était professeur, quand il enseignait, il avait la moitié de la classe, c'était des gens qui venaient apprendre la religion, qui prenaient le suivre. Mais la deuxième moitié, ils n'apprenaient pas la religion. Qu'est-ce qu'ils apprenaient ? Ils apprenaient la langue arabe. Parce que, il a dit... Les gens qui l'ont suivi, ils l'ont dit, on ne l'a jamais entendu faire une faute en langue arabe. D'ailleurs, c'est un poète extraordinaire. Il n'a jamais fait une seule erreur de la langue arabe. Et il avait une connaissance extraordinaire. Il avait une mémoire qui frisait. Un jour, quelqu'un lui a posé des questions sur Ilm al-Rijal. Ilm al-Rijal, c'est ce qui permet de vérifier l'authenticité d'un hadith, c'est de savoir les gens qui ils sont. Ils sont le fils de qui ? Qu'est-ce qui a dit quoi sur eux qui permet de trucs ? Et quand il a terminé, le chef il lui a dit, c'est tout ce que tu as à me poser comme question. Il a dit oui. Il a dit, ah bon, mais tu ne veux pas connaître la généalogie des femmes ? Alors que la généalogie des femmes, personne ne s'est intéressé. Il connaissait toutes les généalogies de toutes les femmes qui ont vécu à l'époque du prophète. Elles étaient qui ? Filles de qui ? Donc la plupart des gens apprenaient les hommes, mais très peu apprenaient, lui, il connaissait la généalogie des femmes et des hommes. Il avait une capacité de mémorisation. On dit qu'il connaissait à peu près 1 million à 1,5 million de hadiths avec toute leur isnad, et il connaissait s'ils étaient faux ou s'ils étaient vrais. Donc il a une capacité. Et donc lui a vécu dans deux périodes, ce qui a fait son savoir, ce qu'il a fait dans le Hijaz, donc en Arabie, puisqu'il a vécu à la Mecque et à Médine. Il a été confronté avec l'école de Ra'i à Bagdad. Et après, il a migré en Égypte, où il était pareil qu'Abu Hanif. En Égypte, à l'époque de Cheikh, il n'y avait même pas 10% de musulmans. Ça faisait à peu près 100 ans que l'Égypte était musulmane, enfin qu'elle était ouverte par les musulmans, mais il y avait très peu. Les autres étaient coptes, la plupart de la truc, ils étaient à 90% coptes. Il a fallu attendre le 12e et 15e siècle pour que la proportion s'inverse entre les musulmans et les coptes pour obtenir la proportion qu'on a maintenant, c'est de 90% de musulmans et 10% de coptes, ce qui était l'inverse exactement à l'époque de Shafi'i. Et là, il a eu affaire évidemment à des religieux, à des prêtres coptes qui avaient un argumentaire très puissant et tout, donc il a eu des discussions avec eux et il a développé cette opinion-là. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Shafi'i ? Ben, on reproche à Shafi'i sa grande intelligence et son pouvoir de déduction. En fait, c'est ça qui fait peur. C'est que en reliant les textes entre eux, des textes de hadith, des textes de trucs, il arrive à obtenir un jugement qui n'est pas apparent. Ça, c'est une grande puissance de Shafi'i. C'est-à-dire, vous prenez un hadith qui disent tous un élément dans la après l'autre, mais quand vous les réunissez tous dans le même contexte, vous pouvez tirer d'autres déductions de ce hadith-là. Ça, c'est la grande puissance de l'imam Shafi'i. Le quatrième imam, Ahmed ibn Hanbal, lui a eu surtout un gros problème. C'est lui qui a supporté toute la fitna de la création du Coran. Il a été emprisonné, torturé, et on a voulu le faire renier, mais il a tenu. Ce qui fait que tout son madhab est basé sur le fait que La seule vérité, c'est celle qui vient de Dieu et du prophète. Et tout ce que l'homme, le bédard, ce qu'on appelle bédard, l'innovation, c'est ça qu'il est, il déteste. À un tel point que l'imam va accepter les hadiths qui sont jugés faibles ou refusés. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une interruption dans les chaînes de transmission. Tout hadith où on a une interruption dans les chaînes de transmission sont refusés par les savants. Lui, il préfère les accepter plutôt que de faire appel à son avis ou de prendre l'avis de quelqu'un. Il va refuser son propre avis. Lui, il estime qu'il n'a pas besoin, le musulman n'a pas à émettre un avis. Alors, je vais prendre un hadith qui est faible, qui reconnaît qu'il est faible, que la chaîne de transmission est interrompue, donc il peut être faux. Plutôt que d'émettre un avis, il dit, et si c'était l'avis du prophète? Et si c'est vraiment l'avis du prophète? Alors, je préfère courir ce risque-là que de courir le risque de prendre mon avis et qu'il soit faux. Donc ça, c'est le principe du madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. C'est de tout accepter à condition que ça vienne du prophète, même si c'est un avis faible. Après, il prendra l'avis des compagnons, après le consensus, après l'analogie, après l'intérêt général. Mais tout son madhab est basé sur le fait de la peur de la fitna. La peur de la discorde, de créer de la discorde. Donc il va refuser l'école de l'imam Ahmed, de l'imam Abu Hanifa. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur l'avis des gens. Parce qu'ils mettent en exergue leurs réflexions. Il refusera aussi l'école de l'imam Shafi'i. Parce qu'il fait référence à des choses qui sont trop différentes entre elles pour qu'on puisse les unir. Il va dans un certain sens, il va refuser l'école malikite aussi pour le fait que l'imam Malik accepte de prendre ce qu'on appelle l'habitude et la coutume, l'urf. C'est-à-dire, l'imam Malik dit que la coutume dans un endroit, si elle ne contredit pas l'islam, est incorporé comme étant une règle de juridiction. On peut l'accepter, l'introduire dans l'islam. L'imam Ahmed ibn Hanbal va refuser cette chose-là. Et ils ont tous été en contact les uns avec les autres. Pour finir, il y a deux autres écoles qui sont importantes, mais je reviendrai dans d'autres trucs. C'est Zahiriya. Alors l'école Zahiriya, c'est le Zahir, c'est l'apparence. Alors, l'école Zahiri est venue contredire ce qu'on appelle une école qui a commencé à se développer à son époque, qui est le Batiniya, c'est-à-dire l'école cachée ou l'école spirituelle. On s'est mis à interpréter les versets coraniques avec un sens caché. Zahiriya, il se base sur le principe que l'apparent est conduit à la vérité. Quand tu entends un hadith, ce que tu comprends du premier coup d'œil, c'est celui-là qui est important. Il ne faut pas aller chercher des sens cachés sous les hadiths, des trucs comme ça. Et donc, elle est venue contrarier, je reviendrai dans un autre cours, mais elle est venue contrarier. Alors, l'école Zahiri, on se réfère aujourd'hui à cette école-là. On tient beaucoup compte de cette école-là. Mais elle n'a pas survécu. Et, c'est-à-dire qu'on n'a pas des gens qui suivent l'école Zahiri. Daoud Zahir. On n'a pas une école qui a maintenant le représente. Mais on a eu un savant qui a repris. Daoud Zahir a été quelqu'un qui a vécu à l'époque de l'imam Mahmoud et tout ça, mais il n'a pas eu beaucoup d'élèves. Il y a eu très peu. Mais on a eu un très grand imam, qui est l'imam Ibn Hazm, qui lui, apparu au 9e siècle en Andalousie et qui a récupéré à son compte l'imam. L'école Zahirite et qu'il a développé, et on l'utilise beaucoup lui-même. On a très peu de références de l'imam Daoud Zahir, mais on a beaucoup d'écrits d'Ibn Hazm. Alors, Ibn Hazm, c'est une sommité, en savoir, il est aussi poète, dramaturge, que philosophe, que théologien, qu'écrivain et tout. Et surtout, c'est un converti. C'est un chrétien qui a été converti, qui maîtrise parfaitement toutes 5 ou 6 langues, voire 15. J'ai lu même un texte qui maîtrisait une vingtaine de langues qu'il maîtrise. Et on utilise beaucoup les récits, par exemple, pour prouver, enfin, pour contredire l'avis de ceux qui interdisent la musique, on se réfère à Ibn Hazm pour utiliser son argumentation pour dire que la musique n'est pas interdite dans l'islam. C'est, on utilise l'avis d'Ibn Hazm pour dire qu'une femme a le droit de conduire la prière, que ce n'est pas une interdiction. Il n'existe pas dans l'islam d'interdiction aux femmes d'être prêtes, de conduire la prière d'un groupe. Et on utilise ainsi beaucoup d'avis, on se réfère à enfin, mais il ne représente pas une école indépendante. D'accord ? Après, on a une école, j'en parlerai pas beaucoup, mais une école qui est référence, c'est l'école de Ja'far Sadiq, radiallahu anhu, qui est un descendant, donc qui est considéré par le chiite leur sixième imam, donc il fait partie de l'école. Mais on a un problème avec lui, c'est que le sunnite le considère comme étant une école sunnite, et le chiite le considère comme l'école chiite. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu par les deux grandes écoles, mais on ne possède pas vraiment. Il ne représente pas une école à part entière. Le schisme en découle, mais ce n'est pas une école entière. Et on a très peu, il n'a jamais écrit de livre, il n'a pas eu beaucoup d'élèves, mais on a des jugements et des hadiths concernant lui qui sont rapportés par les quatre imams. L'imam Abu Hanifa, qui était un très grand ami de l'imam Sadr, il la suit beaucoup, rapporte des hadiths de lui. L'imam Malik rapporte des hadiths de lui. L'imam Sheikh rapporte des hadiths de lui. L'imam Ahmed ibn Hanbal rapporte des hadiths de lui. Donc il n'est pas rejeté comme sont rejetés les cinq imams qui sont avant lui. Lui est accepté par les sunnites. D'accord ? Il n'est pas rejeté parce qu'on dit qu'il a renié le schisme. En fait, il considère que le schisme est une chose. Il reste une dernière école qui, moi je l'ai classée parmi les Sunna al-Jama'a, les écoles juridiques sunnites, alors qu'en fait, la plupart des savants la classent parmi les chiites, ou même la mettent à un port, c'est l'Ibadiyya. L'Ibadiyya, c'est la religion, enfin c'est le groupe qui est pratiqué actuellement à Oman. Et alors, l'Ibadiyya, c'est la première école juridique de l'islam, puisqu'elle remonte à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Ibn Zayd, le fondateur de l'école, a été l'élève de Aïcha, radiallahu anha. Il était un élève direct de Aïcha, il a rapporté des centaines, je crois qu'il a rapporté plus de 1500 ou 1700 hadiths de Aïcha, il a rapporté quasiment tous les hadiths d'Ibn Mas'ud, il a rapporté, c'est la première école juridique pleine qui a été de l'islam. Mais elle a été influencée à une certaine époque par le khalijisme, c'est-à-dire cette idée d'autocratie ou de démocratie qui a régné à un certain moment dans l'islam, ce qui fait que certains la considèrent comme étant vraiment faisant une partie des khawarij. Pourquoi ? Parce qu'il se passe surtout sur une opinion, c'est que l'islam est avant tout égalitaire. L'islam se base sur l'égalité entre hommes et femmes, entre musulmans et musulmans et convertis. La seule différence, c'est le taqwa, c'est-à-dire la crainte de Dieu et les actes. Tout leur principe est basé sur ça. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, un calife, même si c'est un type qui vient de se convertir le lendemain, hier, du moment que c'est le meilleur de la nation, on peut le nommer calife. Donc ils laissent de côté les hadiths qui disent les califes doivent venir de Quraysh, ils doivent être de la famille du prophète et tout ça. Ils disent non, on doit prendre le meilleur. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est le plus valable.
Les autres,
les autres, concernant les quatre imams, c'est Qaddimu Quraysh, c'est-à-dire il faut que l'imam soit de Quraysh. On a des hadiths là-dessus. Oui, non, mais ça c'est de parler de la maintenant, comment on va faire. Mais bon, en fait, leur principe, je reviendrai quand je parlerai du schisme, je vous parlais de deux autres écoles, mais ils ont des avis. En fait, ils se réfèrent quasiment au même hadith que nous. Le Musnad d'Abu Rabi'a, qui est la référence, qui est l'équivalent de ce qu'on appellerait le Sahih Muslim, on trouve quasiment les mêmes hadiths. Mais eux, ils ont l'avantage qu'ils se réclament quasiment de la source. Mais il y a eu des déviations à l'intérieur de l'évolution de l'ibadisme jusqu'à nos jours. C'est, par exemple, c'est eux qui ont volé la pierre noire de la Kaaba et qui a disparu pendant presque 150 ans. Il a fallu attendre très longtemps pour qu'elle soit remise en place. Ils sont venus un jour, ils l'ont arrachée, ils l'ont ramenée chez eux. Donc c'est pour ça que, par exemple, quand vous étudiez vous étudiez les livres de fiqh, vous voyez quoi faire quand on ne voit pas la pierre noire. Elle est là, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas la voir? Parce qu'à un moment, elle avait disparu. Enfin, bon, bref, il y a certaines choses, mais je parle de l'ibadisme. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les savants modernes se réfèrent à eux, parce qu'ils ont vécu en autarcie à un certain moment, et certains de leurs jugements ont été forgés par, en utilisant des hadiths, le qiyas, ils l'ont utilisé énormément, parce que comme ils ont vécu complètement en autarcie, ils ont développé une manière de réflexion qui met en avant les éléments qui sont les plus importants pour un musulman, et surtout qu'ils ont adopté ce qu'on appelle maqam bayn al maqamayn, la position entre les deux positions. C'est-à-dire que pour eux, il y a une position. Quelqu'un, contrairement aux autres savants, on est musulman ou on n'est pas musulman. Eux, ils ont une position intermédiaire entre l'islam et la mécréance. C'est une intermédiaire qui permet de considérer quelqu'un, même quand il ne pratique pas l'islam, de le considérer comme un musulman. Au moins de se comporter tel avec lui. Et surtout, ils n'ont jamais lancé d'anathème contre quelqu'un, donc ce qui fait que la plupart des gens les considèrent comme faisant partie de l'école sunnite, et on reviendra, je pense, notre truc. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفور. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.